Pascal.
Bonjour Stanislas.
Alors nous allons parler dans cette prochaine vidéo de la mise en œuvre entre guillemets rapide de la fédération d'identité. Plutôt nous allons reprendre un petit peu les différentes options qui sont possibles pour se connecter à un service de cloud tout en utilisant en fait les identifiants de l'entreprise et donc utiliser une seule identité à la place de dédupliquer les identités pour les utilisateurs.
Exactement. Donc qui dit gestion des identités dans les technologies Microsoft dit Active Directory. Donc on connaît tous Active Directory, hein, toutes les entreprises en ont depuis à peu près
2000.
Une quinzaine d'années, hein, depuis 99 nos premiers clients, et puis 2000-2001 les grands déploiements, les grandes migrations depuis NT4, puisqu'avant on avait également du NT4 depuis les années 96. Donc on connaît bien Active Directory, donc on voit à peu près ce que ça fait, c'est un service de gestion d'identité, contrôle d'accès, et de management du réseau, puisqu'on retrouve des objets qui concernent un petit peu tout dans les Active Directory internes aux entreprises. Donc là, on va parler de deux choses séparées. Donc la première chose étant Azure Active Directory, qu'on peut appeler ou peut-être Microsoft Azure Active Directory ou Windows Azure Active Directory, c'était l'ancien nom, mais bon, disons Azure Active Directory, AAD. On verra WAAD ou WAAD, ou on verra peut-être MAAD dans la littérature.
Tout ça, c'est la même. Microsoft Azure Active Directory, voilà. Donc les noms peuvent changer, mais fondamentalement, garder le Azure Active Directory, les dernières lettres ne changeront pas.
Quand on voit Azure Active Directory, en fait, on parle de quoi? On parle d'un annuaire de type Active Directory, mais hébergé dans le cloud chez Microsoft, sur des machines que vous ne verrez jamais physiquement, mais qui sont dans Azure.
Et à une échelle assez importante, hein, parce qu'on représente, c'est quoi? C'est 2 milliards, dernier chiffre, c'était 2 milliards d'authentifications par semaine, ce qui est relativement beaucoup.
Ça donne le tournis. Et donc, cette Azure Active Directory, il va pouvoir être utilisé en conjonction avec votre Active Directory classique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette Active Directory classique? C'est un Active Directory qu'on connaît, donc celui dont je parlais tout à l'heure qu'on connaît. Et cette Active Directory qu'on appelle Windows Server Active Directory, on va pouvoir le retrouver dans Azure. Alors, ce n'est pas un paradoxe, c'est simplement le fait qu'on peut mettre des machines virtuelles dans Azure Active, dans Azure IaaS. Et sur ces machines virtuelles, on peut installer des contrôleurs de domaine. Et donc, on va pouvoir retrouver notre Active Directory classique de Windows Server dans Azure avec, via des connexions VPN, une réplication vers nos contrôleurs de domaine internes, etc. Donc, deux types d'Active Directory.
Mais on va revenir quand même sur le WAAD, hein, qui lui permet effectivement de se connecter des applications externalisées avec des crédentiels d'entreprise.
Voilà, donc à quoi ça sert, ce fameux WAAD? Ça sert à faire de ce qu'on peut appeler par un petit barbarisme comme on aime bien, hein, donc de l'IDAAS, de l'Identity as a Service ou Identity Management as a Service. Et donc ça consiste à utiliser cet annuaire qui est dans le cloud, qui est purement dans le cloud, pour gérer nos identités qui vont nous permettre d'accéder à des applications de type cloud. Alors ça peut être des applications comme Office 365, Dynamics, Windows Intune, tout ça. Tous ces produits Microsoft de type SaaS vont se baser sur Windows Azure Active Directory pour leur authentification, pour leur contrôle d'accès, leur gestion d'identité. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, pourquoi on fait de la gestion pourquoi on a ce type de solution de gestion d'identité depuis des années, hein, bien avant Azure? La raison d'être d'Active Directory et puis des domaines NT4 auparavant, c'était de centraliser la gestion d'identité de façon à ne pas faire les choses plusieurs fois et à ce qu'un utilisateur soit défini une seule fois à un seul endroit et que avec ce compte d'utilisateur défini une seule fois à un seul endroit, on puisse accéder à des ressources n'importe où dans l'entreprise. Donc là, c'est le principe est le même. On va avoir un annuaire dans l'entreprise, dans Active Directory classique, un annuaire dans Azure, le Azure Active Directory pour accéder à nos applications de type SaaS. On n'a pas envie de définir deux fois, de gérer deux fois nos utilisateurs et donc d'avoir deux gestions séparées. Donc l'idée, c'est d'avoir une connexion entre les deux de façon à avoir notre objectif de single sign-on et de management unique rempli, atteint par ces deux annuaires.
Si je devais faire une petite analogie, tu parlais tout à l'heure de domaine NT4. Toute personne ayant eu des cursus de formation NT4 se rappelle du moyen mnémotechnique de se rappeler comment fonctionnaient les relations d'approbation.
Ah, les relations d'approbation.
La règle était le domaine de ressources approuve le domaine de compte. Donc ça voulait dire que depuis un domaine où on avait des serveurs applicatifs, par exemple, donc un serveur applicatif dans un domaine numéro B, sur le premier domaine, domaine A, qui était votre domaine de compte, il y avait les comptes utilisateurs, Et on pouvait donc, les utilisateurs du premier domaine pouvaient se connecter sur les ressources du deuxième domaine. Et on disait les ressources approuvent les comptes.
Voilà.
Basiquement, une fédération, c'est assez similaire. C'est-à-dire qu'on a on va avoir des services de cloud qui vont approuver, donc ce sont les ressources, et elles vont approuver des identités qui sont votre Active Directory sur site. Basiquement, c'est un petit résumé rapide, mais l'idée générale derrière, elle est comme ça. Donc on pourrait dire c'est une sorte de relation d'approbation à l'échelle du web, et là on sort du périmètre pur de l'entreprise.
Exactement. Donc il va falloir faire différentes choses hein, pour éviter cette double gestion, etc. Dont, et on va voir qu'il y a des mécanismes de synchronisation d'annuaire qui vont être nécessaires, puisque même si on va vouloir gérer nos utilisateurs à un seul endroit, il va falloir quand même retrouver des objets fantômes, des objets correspondant à nos utilisateurs qui sont gérés ailleurs, dans Azure Active Directory, pour que lui puisse faire son travail de gestion des contrôles d'accès, de mapping. Et puis, le mécanisme de fédération d'identité avec ADFS.
On va expliquer, c'est un petit peu l'objectif de cette vidéo.
Exactement. Donc, trois approches notre problématique. Donc, la première approche, c'est une approche où on n'a que des identités dans le cloud public. On n'a que Azure Active Directory, on n'a pas d'Active Directory en local ou en très petit, puis on s'en moque que les utilisateurs aient deux identités, deux mots de passe différents, peut-être, au pire, etc. Donc, c'est vraiment pour des toutes petites organisations qui n'ont pas envie de mettre des solutions complexes en œuvre.
Là, typiquement, on est sur du cadre TPE, PME, PMI, quoi. Pas beaucoup plus loin, d'accord.
Qui ne font que du cloud.
Petite PME.
Voilà, une TPE qui a des postes qui sont en workgroup, qui ne sont pas dans un domaine, c'est et qui rare. A toutes ses applications dans le cloud. Pourquoi pas. Donc la deuxième solution, c'est la solution à base de synchronisation de mots de passe. Donc cette solution-là, elle est intéressante parce que on n'aura pas une seule identité à proprement parler, mais pour l'utilisateur, on aura une seule identité parce que pour lui, son identité, c'est son nom, son mail et son mot de passe. Et si on arrive à dupliquer son nom et son mot de passe de l'Active Directory en local, sur place, vers l'Active Directory dans Azure, on aura gagné parce que pour lui, il mettra toujours le même nom, le même mot de passe, et ça sera nickel.
Et donc la synchronisation est importante parce qu'effectivement, quand il changera son mot de passe sur site, la synchronisation fera qu'il sera projeté en fait dans le
hash. Alors, c'est pas le mot de passe, évidemment, hein, c'est le hash, c'est etc.
Le
hash. Mais
on
comprend le principe. L'autre principe étant que également les utilisateurs supprimés en local vont être supprimés. Oui. Donc on a on a quelque chose de cohérent quoi, entre les deux annuaires.
Et c'est relativement important parce que dès que ça commence à partir entre différents, ça fait des années qu'on a essayé de reconsolider les
sucettes.
Partir en sucette, c'est un terme technique. Ça fait des années qu'on a essayé de consolider en gros les annuaires. C'est pas aujourd'hui qu'on a envie d'en réexposer, d'en recréer des nouveaux partout pour chaque nouvelle application.
Exactement. Troisième solution, c'est la solution dite de fédération. Donc au lieu de synchroniser nos mots de passe vers le cloud, on va les garder en interne et on va mettre en œuvre ce mécanisme de fédération, donc de relation d'approbation entre guillemets, dont tu parlais tout à l'heure. Oui. On va faire en sorte que quand un utilisateur va dire « voilà, je m'appelle toto@entreprise.com, voilà mon mot de passe », Azure Active Directory va le reconnaître parce que l'objet va bien exister dans sa base, par contre son mot de passe il ne l'aura pas et il l'appellera le réseau interne, le serveur de fédération interne, pour se faire authentifier. Donc il fera confiance à l'authentification par l'entreprise.
Exactement.
Cette relation d'approbation.
Donc dans une fédération d'identité, on synchronise une partie des objets de l'utilisateur, des attributs de l'utilisateur, mais pas la partie mot de passe. Donc effectivement, certaines informations de l'utilisateur sont projetées dans le cloud public, mais pas toutes. Donc c'est-à-dire que l'authentification se fera toujours sur un serveur qui est hébergé dans un de vos data centers. Toujours. Ouais. Donc, en résumé, les approches dans le. Donc, option numéro 1, eh bien, l'administrateur crée directement, au travers du portail d'Azure, des utilisateurs dans l'Azure Active Directory. Et ensuite, ce sont ces comptes utilisateurs présents dans l'Active Directory qui pourront accéder, en fonction de leurs permissions respectives, à des services soit déjà prépackagés de type SaaS, Office 365, CRM, Intune, ou des applications faites par des tiers, mais hébergées également, par exemple, dans Azure. Avec un seul et même identifiant, effectivement, qui est créé, une seule et même identité créée, stockée dans le cloud. Donc, pour créer des comptes dans l'Azure Active Directory, il y a plusieurs options. La première, c'est créer à la main directement par le portail ou en PowerShell rapidement. On va dire par le portail, les objets utilisateurs. Donc, c'est bien qu'on a un volume très faible. Hein, dès qu'on va commencer à dépasser quelques dizaines, ou la dizaine, moi je dirais même, d'utilisateurs.
Oui.
On va peut-être plutôt prendre un petit script. Hein. Donc PowerShell a des commandes lettres qui permettent de provisionner tout ça. Et donc l'idée, c'est d'automatiser la création des comptes et leur gestion. Ça, c'est l'option donc, numéro 1. L'option numéro 2, c'est si on veut s'intégrer avec l'Active Directory sur site. Donc l'administrateur va administrer, comme il le fait aujourd'hui, son Active Directory. Et il va mettre en place entre l'Active Directory et le Windows Azure Active Directory un mécanisme de synchronisation d'annuaire. Donc les outils ont différents noms, on appelle ça l'outil DIRSync ou le connecteur WAD pour Film 2010. Basiquement, c'est en train de, tous les outils sont en train de se consolider dans un seul outil qu'on appellerait DIRSync avec des guillemets autour, parce que après on peut changer un petit peu son nom, mais c'est un DIRSync, une version qui va faire la synchro entre ce qu'il y a sur place et ce qu'il va y avoir dans Windows Azure Active Directory. Donc là, on est par contre sur une option d'intégration qui est complètement automatisée, parce que c'est l'outil qui, une fois qu'il est paramétré, va s'occuper de maintenir la cohérence entre la source et la destination, c'est-à-dire le cloud public. À noter, c'est que donc pour la mise en œuvre de Single Sign-On, comme on en a parlé tout à l'heure, c'est idéal. Et l'utilisation de DIRSync, de toute façon, est nécessaire pour la troisième option, qui va être la fédération, c'est-à-dire la synchronisation partielle des objets utilisateurs, mais pas celle des mots de passe. Donc l'outil maintenant, le dernier nom qu'il avait, mais il a peut-être encore changé, c'était l'outil Windows Azure Active Directory Service DIRSync. Il s'appellera peut-être probablement maintenant Microsoft Active Directory Service DIRSync, à vérifier. Donc ça convient à toutes les organisations qui ont de l'Active Directory, c'est-à-dire aujourd'hui je pense 99,9% des entreprises. Or, les toutes petites structures. L'expérience est relativement bonne parce qu'en fait, l'outil est très très bien fait et il supporte également les scénarios hybrid exchange, c'est-à-dire les scénarios où vous avez des serveurs exchange à l'intérieur de votre entreprise, associés à des boîtes aux lettres Office 365 qui, elles, sont à l'extérieur, en fonction des utilisateurs. On le recommande fortement DIRSync pour la synchronisation et la fédération de mots de passe. Il n'y a pas de coût supplémentaire, par contre, il faut effectivement le prévoir une petite place sur un serveur pour l'installer.
Donc il supporte la synchronisation des mots de passe, comme il est indiqué ici, mais c'est absolument pas obligatoire.
Non, d'ailleurs, c'est devenu même aujourd'hui, autant les mots de passe avant étaient synchronisés obligatoirement dans les anciennes versions de DIRSync, désormais dans les dernières versions avec Windows Azure Active Directory, la case est décochée de base. En fait.
Et puis dans la slide précédente, on est passé très vite, mais il y avait un petit mot FIM. FIM, c'était un produit dont est sorti cet outil DIRSync. Hein. Cet outil DIRSync, il ne vient pas comme ça du néant.
Non.
Il existait.
Et FIM, en fait, c'est l'acronyme de Forefront Identity Manager, qui est un outil intégrant du méta-annuaire et de la gestion de smart card. Donc, c'est des choses qui durent depuis des années, qu'on a simplement fait évoluer dans le nom, etc. Voilà.
Exactement.
Donc, on peut également choisir de filtrer la synchronisation, c'est-à-dire dire je n'ai pas envie de synchroniser l'ensemble de mes comptes utilisateurs de mon Active Directory, mais peut-être simplement une sous-branche. Donc ça peut être un OU, ça peut être un domaine. On peut également filtrer certains attributs utilisateurs. Je ne sais pas si par exemple il y a des informations sur le libellé du poste d'un employé dans l'Active Directory. On peut dire ça, il n'y a pas de raison que je le projette dans un annuaire externe, même si je lui fais confiance. Donc on peut filtrer les attributs, dire je vais garder que les attributs strictement nécessaires à la fédération et point barre.
Et pas sensible du point de vue des données personnelles ou autre.
Exactement. Et là encore, si on veut appliquer ce filtrage, on ira dans le répertoire de DIRSync, chercher dans une sous-arborescence, et c'est indiqué dans cet article ici, le client Microsoft Identity Manager, qui est en fait le client Forefront Identity Manager, qui permettra d'aller filtrer justement de manière un peu plus granulaire que depuis l'assistant de base de DIRSync.
Et là, qui s'appelle MIIS client, hein, comme on le voit ici.
Exactement.
L'ancien nom de FIM.
L'ancien nom de FIM. Vous voyez que rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme, comme disait Lavoisier. Donc, approche numéro 3. Donc, on intègre l'Active Directory sur site et on met en place, au-delà de la synchronisation, également de la fédération d'identité pour le single sign-on. Donc ça veut dire qu'on va projeter une partie des attributs utilisateurs, mais pas les mots de passe ou leur condensé. Donc là, on va s'appuyer réellement du coup sur l'Active Directory. Aujourd'hui, on prend en charge les standards OASIS, WS Fédération, WS Trust, SAML 2, donc c'est-à-dire tout ce qui est vraiment classique sur le marché. Il existe des très très bons documents, des très très bons white papers sur le sujet, par exemple faire du single sign-on entre sur site et Office 365. Si vous n'avez pas d'ADFS et que vous utilisez d'autres méthodes sur site, d'autres annuaires, je pense au monde de l'éducation par exemple avec chez Boulette, le dernier, Et bien là encore, il y a des white papers qui sont très très bien documentés. On vous a mis recherché dans votre moteur de recherche préféré, qui est certainement Bing, l'ensemble de ce titre, Office 365 Single Sign-On with ADFS 2.0.
Je crois savoir qu'ils ont été écrits en France.
Et ils ont été écrits en France, vous savez, parce que ce sont des collègues qui les ont écrits. Kudos à toi, Philippe Béraud. Donc, ADFS, c'est clairement l'option qu'on recommande pour les organisations qui ont de l'Active Directory, parce qu'effectivement, on va avoir ce single sign-on, et l'authentification, elle sera basée par des jetons de sécurité. Donc, en gros, l'utilisateur va se authentifier sur un serveur qu'on appelle un STS, un Security Token Server, qui est un serveur, un web service exposé par l'entreprise depuis son data center, et qui va, une fois qu'elle aura authentifié l'utilisateur vis-à-vis de l'Active Directory, lui générer un jeton SAML qui sera présenté après auprès du service de cloud pour pouvoir rentrer et être authentifié. A noter, ce qu'on est capable de coupler également cette authentification ADFS, donc qui est ramenée sur le site de l'entreprise, avec une authentification double facteur, c'est-à-dire on pense que si simplement l'utilisateur se log avec son mot de passe, c'est un peu c'est pas assez suffisant. On peut coupler ça avec l'authentification avec autre chose, donc le Azure Multifactor Authentication, c'est l'authentification par réception de SMS ou appel de l'utilisateur ou réception d'un code.
Ou code, ouais.
La carte à puce, bon, c'est ce que c'est qu'une carte à puce. Mmh. À noter, ce qu'ADFS est très très bien supporté pour tout ce qui est application exécutée au sein de navigateur et certains clients riches. Je dis certains, après il faut voir client par client le support ou pas de ces standards d'authentification. Donc, dans notre cas, ça fonctionne parfaitement bien pour les scénarios hybrides avec l'Office 365, avec Windows Intune, avec les Azure Immotap également, qui sont une nouveauté de Windows Azure, qui permettent d'exposer des applications distantes, donc ex-terminal server, mais hébergées au sein d'Azure. Et donc, ça nécessite sur place des serveurs dans les centres de données des organisations. Donc, il va nous falloir des serveurs de fédération, ce qu'on appelle les STS. Si on met devant dans une DMZ, un reverse proxy, on peut également mettre un proxy ADFS dans notre rôle. C'est pas obligatoire, mais vous pouvez le faire. Le reverse proxy, quelle que soit la marque, etc., est optionnel, mais peut être complètement utilisé si vous avez déjà, je ne sais pas, des équipements F5 ou Citrix, des choses comme ça, vous pouvez les utiliser. Un forfront TMG, même si on ne le vend plus encore aujourd'hui, fonctionne très bien pour faire ce type d'opération. Et il faut bien entendu des contrôleurs de domaine Active Directory sur site.
Et dans Windows Server 2012 R2, le rôle proxy ADFS est rempli par le Windows Application Proxy.
Voilà, le serveur WAP, qui est donc un nouveau rôle en fait de Windows Server 2012
R2. Web Application Proxy.
Web Application Proxy. Pardon. Alors, du coup, on va faire un petit exemple de fédération. Ah. Alors, Pascal, est-ce que tu te souviens l'adresse de logon du portail Windows Azure? Windows Intune.
C'est admin.manage.microsoft.com.
Alors je parlais pour les utilisateurs.
C'est account.
Account.manage.microsoft.com.
Manage.microsoft.com.
Bon. Alors ça ne doit pas être ça. Donc je vais te proposer une autre expérience. On va aller sur un site qui s'appelle ak.ms. AK.ms, c'est un site, c'est une application cloud, enfin une application qui est hébergée sur Windows Azure, qui a été développée en interne chez Microsoft, et qui nous permet de créer en fait des micro-liens. Mm-hmm. Donc quand je suis un employé Microsoft, donc tu vois, elle est stockée actuellement sur Azure. Donc ici, tu vois que mon URL, c'est AK.ms. Quand je suis employé, je vais venir cliquer ici. Et là, j'arrive sur une page dont l'URL est corp.sts.microsoft.com.
Donc là, on n'est plus.
On n'est plus sur le
AK.ms, on a été redirigé.
Voilà, l'AK.ms, la fédération m'a redirigé sur mon serveur d'authentification interne. Donc cette page est personnalisable. Ici, on a un petit logo, c'était fait par Microsoft. On peut se loguer, login mot de passe ou carte à puce. Donc là, je parle tout à l'heure d'authentification forte avec ADFS, on en a un bel exemple. Là, je vais me connecter avec mon compte de domaine Active Directory, donc je vais marquer mon nom de domaine Europe
et ton petit mot de passe.
Et mon petit mot de passe. Voilà, donc là je suis toujours sur corp. Et là vous voyez que j'ai été redirigé. Je suis à nouveau maintenant cette fois-ci sur spx.cloudapp.net. Donc cloudapp.net, ça doit vous dire quelque chose, c'est le nom d'un cloud service en fait hébergé sur Azure. Mm-hmm. Et donc là, je suis revenu automatiquement sur l'application. Donc j'ai été authentifié par les serveurs STS on-premise de Microsoft et je suis reparti sur l'application.
Le STS
m'a fait un jeton de sécurité.
Voilà, a récupéré un jeton de sécurité.
Me l'a donné, je l'ai présenté à l'application.
Tu as redirigé vers ton application d'origine avec dans l'URL le jeton.
Exactement.
Qui va bien.
Donc là, ça c'est un exemple en tant qu'expérience utilisateur. Maintenant, Pascal, je bascule sur l'interface d'administration, donc côté administrateur du portail de Microsoft Azure. Je vais descendre ici. Et là, on voit donc dans la zone Active Directory que j'ai actuellement deux annuaires, donc deux annuaires WAD. Donc j'en ai un ici qui est à moi, le WAD Stan, avec à l'intérieur des utilisateurs qui proviennent en fait de différentes sources. Donc on voit ici que j'ai des utilisateurs qui proviennent de mon Active Directory local. Donc c'est des utilisateurs qui ont été synchronisés vis-à-vis de mon AD local.
Avec DirSync, donc.
Voilà. On voit ici la présence, je peux mettre dans un WAD également des comptes provenant d'une autre source d'identité, comme par exemple les comptes Microsoft. Mm-hmm. Donc j'ai un Hotmail ici. J'ai également un autre compte, là j'ai également ici un compte qui est directement un compte dont la source est WAD, donc qui a été créé uniquement en ligne. Donc on voit ici son nom complet, etc. À partir de là, je vais pouvoir créer des groupes, affecter des applications à ces groupes, etc. Quand on regarde mes domaines, ici on va voir le adinazure.info, qui est le nom en fait de ma fédération que j'ai établie en fait avec mon Active Directory. Et ici j'ai un onglet qui s'appelle Directory Integration. Et on peut voir quoi ? Que j'ai intégré ce domaine WAD avec un Active Directory local. Donc là pour l'instant j'ai un domaine qui a été vérifié pour la synchronisation. J'ai donc ce même domaine qui est également utilisé pour le single sign-on, ce qui veut dire basiquement derrière la fédération. Et on voit que j'ai activé ici ma synchronisation d'annuaire avec une synchronisation qui s'est faite faite il y a moins d'une heure. En gros, j'ai fait ces différentes étapes, j'ai ajouté mes domaines, préparé la synchronisation.
Les choses sont bien documentées dans l'outil lui-même.
Les étapes ont l'air simples comme ça, elles appellent en fait pas mal de lectures quand même avant, donc c'est pour ça que les white papers sont assez riches.
On est là pour simplifier la documentation.
Mais effectivement, c'est ça, on est un peu là aussi pour simplifier ces process. Et donc, dans ce cours MVA, vous verrez des liens qui vous permettront également d'aller plus loin et de pas à pas monter complètement une plateforme de type MVA. Et puis désormais également, vous voyez, on peut configurer également l'authentification multifacteur, ce que je n'ai pas encore fait ici. À noter, c'est qu'à partir du moment où vous êtes sur l'Active Directory dans WAD, pour les administrateurs de WAD, vous pouvez activer, ça fait partie du package de l'authentification MFA, ça fait partie, il n'y a pas de coût supplémentaire pour la partie administrateur. Il y en a par contre pour la partie utilisateur. Voilà. Et puis là, on retrouve des choses ici comme... Les application proxy et les device registration qui sont des technologies qu'on connaît très bien dans Windows 2012 R2 pour ajouter des devices à l'entreprise, des devices qui sont des devices personnels. Voilà, donc là on déborde un petit peu du sujet. On va retourner à la présentation pour la terminer. Donc en résumé, vous aurez compris que le principe général de la fédération d'identité, c'est d'établir une relation de confiance entre d'un côté l'entreprise avec l'Active Directory et les utilisateurs de l'entreprise. Dans l'entreprise, on va avoir ce serveur ou ce service de sécurité qui vont générer des tokens suite à l'authentification qui vont permettre de rentrer dans des services tels que Windows Intune, Office 365, DRM, Azure, etc. Et si on rentre un tout petit peu dans le détail, avec un exemple ici d'Office, eh bien on a une plateforme d'authentification effectivement où depuis le portail d'Azure ou depuis PowerShell, on va pouvoir provisionner un store, qui est en gros le WAD, Windows Azure Active Directory, et du coup, ça va nous servir de plateforme d'authentification pour l'ensemble des applications qui sont ici. Le tout avec, sur une prémisse, deux rôles fondamentaux, ou trois on va dire même d'ailleurs. Le premier, c'est les contrôleurs de domaine Active Directory. Le deuxième, le serveur de synchronisation pour mettre les objets dans la plateforme de provisioning qui vont les mettre dans WAD. Et puis, pour la partie authentification, le serveur de fédération, qui est le serveur Security Token Server, qui va générer les jetons pour la fédération.
Qui, lui, doit être accessible depuis l'extérieur en HTTPS.
Exactement. Ce sujet vous a intéressé ou d'autres sujets vous intéressent dans nos domaines de compétences, n'hésitez pas à nous tweeter un petit message, @pessolière ou @squastana, avec le mot-clé dièse cours MVA.
Oui, et puis ce sujet était super intéressant parce qu'on a besoin vraiment dans tous les cas de mise en œuvre du cloud actuellement. Pour vous, IT Pro, c'est un sujet qui a...
C'est son importance. On est réellement dans la modernisation du data center et vers son extension, vers des services extérieurs. Là, on a parlé des services cloud de Microsoft, mais ça pourrait être d'autres services parce qu'aujourd'hui, AD, dans sa version premium, permet également d'interconnecter d'autres services. Mmh. Mais là encore, c'est toujours de la fédération qui va y avoir derrière.
On en reparlera certainement.
À bientôt.
Merci.